Moment idéal pour faire un bilan de saison du côté des Alouettes de Montréal. Bruno Hépel est avec nous. Salut Bruno.
Salut Jérémy, comment ça va?
Ben ça va super bien Bruno. Écoute, c'est le temps des fêtes. Comment tu veux que ça aille pas bien? C'est impossible.
Première des choses, ouais, je veux souhaiter à tout le monde qui nous écoute de joyeuses fêtes, un joyeux Noël qui s'en vient à grands pas. Puis tout le bonheur du monde à tout le monde, incluant toi, mon Jérémy. Bien content de te reparler pendant le temps des fêtes.
T'es bien gentil, Bruno. Et on va souhaiter beaucoup d'amour du côté des Alouettes parce que, par moment, cette saison, on a manqué un petit brin d'amour. Quand même, quatrième saison de suite sans avoir accès au match éliminatoire. 5 victoires, 13 défaites. Comment tu décris le bilan des Alouettes de Montréal, Bruno?
Bien, jusqu'à présent, c'est sûr et certain que depuis 2 ans, c'est un constat d'échec. C'est sûr que le bilan ne peut pas être un bilan positif. C'est impossible, à mon avis, que les Alouettes sont arrivés dans leur post-mortem, se sont rencontrés Kavis Reed, Mike Sherman et Patrick Boivin et Andrew Whatnot, qui se sont tous regardés les quatre là, puis qui ont dit « Wow, quel travail incroyable, tout va bien ». Mais non, t'sais, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui sont capables, je l'espère, en tout cas pour certains, je vais te garantir que Patrick Boivin et Andrew Whatnot sont capables d'être objectifs. Je suis pas prêt à dire la même chose pour Kavis Reed, qui semble un petit peu vivre des fois dans un monde parallèle, mais là, il va falloir qu'il commence à se rendre compte que ça passe par des victoires, là, la job de GM. Puis c'est pas compliqué. Là. Un directeur général est reconnu par ses victoires et ses défaites. Puis en ce moment, ben je pense que c'est 8 victoires en 36 matchs hein, à la barre des Alouettes comme directeur général. Fait qu'on peut pas dire que c'est un constat très, c'est pas un constat qui l'amorce, c'est un constat qui met beaucoup, beaucoup de pression pour l'année qui s'en vient en 2019. Tu peux pas avoir un début de saison. Puis tu sais, on a reçu l'horaire des Alouettes, là. On a Ottawa, Hamilton et Edmonton, les 6 premiers matchs de l'année. C'est nos opposants, là. Hey, écoute, c'est pas facile, là. Puis j'espère que les Alouettes comprennent ça. J'espère que Kavis Reed comprend. Il peut pas commencer la saison 0-6 et s'attendre d'avoir encore son job pour le 7e match de la saison. En tout cas, moi, je vais être bien surpris si ça arrive.
Là. OK, fait que donc...
À un moment donné, il faut que les Alouettes, il faut qu'ils mettent leurs pieds à terre et qu'ils se disent, bon, ben, je suis pas prophète de malheur, je te dis. Tu me poses la question. Si on commence 0-6 ou 0-4 ou 0-5, ben, je peux pas croire qu'Andrew Whatnot et Patrick Boivin vont continuer à boire le Gatorade là, de Kavis Reed. Là.
OK, fait que donc, position de siège éjectable pour Kavis Reed, ce qui est normal. Le contraire aurait été problématique. T'sais, si on donne confiance tout le temps, un moment donné, on va se dire il y a quelqu'un qui connaît pas ça en quelque part. Là.
Ben c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est leur crédibilité à eux qui est mis en cause. Là. T'sais, s'ils continuent à juste rien faire et dire que tout va bien pendant que le GM est en train de perdre des matchs, défaite après défaite après défaite, puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas compétitif, puis qu'on n'a pas à des positions clés réussi encore une fois à aller chercher du talent, ben eux autres, c'est leur crédibilité à eux qui va être mise en cause. Fait que c'est clair qu'eux autres vont devoir réagir pour protéger leur intégrité. C'est pour ça que je me dis, un bon début de saison s'impose pour Kavis Reed s'il veut garder son job. Maintenant, je poche pas dans le secret des dieux, c'est peut-être pas ça qui va arriver. Mais moi, si j'étais le président ou le propriétaire, ce serait ma façon de voir les choses. Mon GM aurait besoin de produire, puis vite.
Dis-moi, Bruno, souvent, on va associer le nom... Écoute, pas souvent, on va toujours, à partir de maintenant, associer le nom de Kavis Reed à celui de Johnny Manziel. Parce que c'est lui qui a effectué cette transaction, a donné beaucoup de choix au repêchage. On a donné beaucoup pour aller chercher Johnny Manziel. C'était difficile, blessure, adaptation difficile par moment. Est-ce que tu vois une certaine lueur d'espoir dans le cas de Johnny Manziel?
Écoute, tu me demandes si tu vois une lueur d'espoir. C'est clair que ça s'est pas traduit en victoire, en tout cas, ça c'est clair. Là. Mais tu sais, de là à dire qu'il y a juste Johnny Manziel qui est à blâmer là-dedans, absolument pas. Je pense pas qu'on avait les outils pour réussir à la position de receveur de passe. C'est la première des choses. Hein. S'il y a quelque chose qu'on... Si on veut aider Johnny Manziel là, pendant la saison morte, là, ben on va commencer à penser à remplacer certains de nos receveurs de passe, là, parce que c'était loin d'être concluant. Puis un des problèmes qu'on avait souvent aussi, c'était un gros manque de profondeur. Moi, je pense qu'un gars comme Ernest Jackson a gardé sa job parce qu'on n'avait personne pour le remplacer. T'sais, parce qu'on n'avait personne dans l'équipe de pratique, parce qu'on n'avait personne sur l'équipe de réserve qui était capable d'aller jouer un match d'aller Canadien de football, puis d'être à la hauteur de ce qu'on veut, bon, d'un receveur numéro 1 ou 2 dans cette équipe-là. Et ça, c'est problématique. T'sais. Même des fois, on était pris Et ça, ils nous l'avoueront pas, mais c'était la réalité. Nous, on connaît ça, on suit les activités de l'équipe. On était pris pour jouer un receveur canadien de plus parce qu'on n'avait pas d'Américain qu'on était capable d'habiller. Tu sais, c'est pas drôle, là, à la position en particulier. Ça démontre un manque de vision, un manque de préparation du GM, là, dans sa façon d'aller signer ses joueurs puis d'avoir du monde de près au cas où il y a des blessés, au cas où il y a un manque de production à une position pour avoir quelqu'un qui est dans le collimateur puis qui est en train de mettre de la pression sur le joueur qui joue à cette position-là de produire ou, en donnant une blessure, d'être capable de le remplacer rapidement. Tu sais, puis t'as juste à regarder dans les autres équipes, là, les Stampedeurs de Calgary qui ont un paquet de blessés, ils ont remplacé les joueurs, les receveurs de passe un après l'autre, puis c'est drôle, ils se sont rendus à coupe et ils l'ont gagné, tu sais, c'est ça, là, quand tu te prépares à balance, puis quand t'as un GM de la trempe de Hofnagel qui est capable qu'il y a des bons tunnels, des bons channels, comme on dit en langage de football, là, des channels aux États-Unis pour aller chercher des joueurs pour remplacer les blessés. Puis à un moment donné, même Kevin Sweet l'a avoué dans une entrevue, il dit, on a tellement eu de blessés comme demi-défensifs qu'à un moment donné, on n'a pas eu le choix de faire un échange pour aller chercher un joueur comme demi-défensif pour jouer le match de la semaine d'après. C'est pas arrivé aux Stampedeurs de Calgary d'être obligé de faire des échanges pour mettre des joueurs sur le terrain.
OK, mais je veux
comment
pas.
Comment ça, c'est arrivé à nous?
Non, mais je veux pas m'acharner sur. Non, mais Bruno, je veux pas m'acharner sur Kevin Sweet, mais juste ça, là. Juste la situation où tu n'es pas capable de trouver des joueurs pour avoir la profondeur, pour être compétitif. Juste ça, pour moi, aurait dû être une marque claire, nette et précise que ce gars-là n'a pas les compétences pour faire ce job-là.
Oui, ceci étant dit, peut-être, moi, tu sais, je suis pas au courant des restrictions qu'on lui a mis comme entraîneur, comme directeur général. Est-ce qu'on lui a donné les fonds nécessaires pour pouvoir faire toutes les transactions, mais les recherches? Après ça, tous les essais, amener des joueurs en avion, les faire courir des 40 verges, les faire pratiquer après les pratiques, comme on a vu Jim Popp le faire à plusieurs reprises. Moi, quand je jouais là, tu sais, ça arrivait à pelleter à Dorval, là, pendant la saison. Est-ce que Kevin Sweet a cet argent-là de disponible à sa disposition pour faire ça? Moi, je ne le sais pas. Tu comprends? Ce que je te dis, c'est que moi, je vois un résultat en ce moment qui me démontre que on semble avoir de difficultés à trouver du talent aux États-Unis, à trouver du talent pour bâtir notre profondeur, pour bâtir pour les années à venir. Alors que les équipes qui compétitionnent, qui sont dans le haut du classement année après année, sont souvent les équipes qui sont capables de faire ça. Mm-hmm. Donc, il faut que Kevin Sweet arrive à ça. Là, c'est un jeune GM il y a 2 ans, mais là, ça va être sa 3e année, là, qui n'arrive pas au camp d'entraînement, puis que on commence les 2-3 premiers matchs de la saison puis qu'on est encore dans la même situation parce que là, je vais commencer à dire qu'il n'y a tout simplement pas les contacts pour avoir le talent qui s'impose pour être compétitif. C'est juste ça. Fait qu'il y a un gros challenge et une grosse progression à voir pour Kevin Sweet en début de saison l'an prochain. Pour moi, puis pour tous les joueurs ou les gens qui suivent les Alouettes de façon journalière, et qui connaissent ça quand même un peu. Là.
Mais tu vois, regarde ça, c'est positif. Il y a beaucoup de place à amélioration. Voilà quelque chose de positif, Bruno. On arrête
bien. C'est clair. Puis l'autre chose, c'est que Johnny m'a dit, ben oui, mais regarde, t'as raison. Puis en ce jour de Noël, on va être positif.
Exact.
La réalité, c'est qu'on nous dit que la ligne à l'attaque va être meilleure. T'sais, ou qu'on a bâti notre ligne à l'attaque. T'sais, on est allé signer des bloqueurs. On a repêché des bloqueurs, ce qui était notre problème. Parce que là, on va arriver au camp d'entraînement, puis j'espère qu'on va voir une ligne à l'attaque dominante. Parce que si tu veux que Johnny Manziel soit bon, première chose, il faut qu'il y ait de la protection. Deuxième chose, si tu veux que Johnny Manziel soit bon, il faut qu'il mette des receveurs qui sont dans les meilleurs de la ligue quand tu regardes le groupe. C'était vraiment pas le cas des Alouettes. Là. On était le pire ou un des pires groupes de receveurs de la ligue. Faisons ces deux choses-là pour commencer. Donnons donc les outils à Johnny Manziel pour réussir. Puis après ça, on pourra d'évaluer son talent. Puis voir si là, regarde, es-tu capable ou pas. En ce moment, je pense pas qu'il y avait autour de lui suffisamment de talent pour être capable de faire ça. Là.
Mike Sherman, toujours l'homme de la situation?
Ben, Mike Sherman, c'est un peu comme Kevin Sweet, là. Il n'a pas prouvé à personne qu'il était capable de gagner. Là. Il va falloir que lui aussi, ce soit la même chose. Je pense que Mike Sherman va avoir une meilleure saison s'il reconnaît que d'avoir coaché la NFL, c'est pas garant de succès dans la Ligue canadienne de football.
OK.
Et qui s'entoure et qui continue à progresser en s'assurant de consulter et d'être à l'écoute des gens et des intervenants autour de lui qui ont plusieurs années d'expérience, beaucoup plus que lui dans cette ligue-là, pour savoir ce que ça prend pour avoir du succès.
Est-ce que
s'il fait ça, il va avoir plus de succès l'an prochain.
Est-ce que je comprends qu'il a manqué un peu d'humilité à propos de la Ligue canadienne de football?
Je pense pas que c'est peut-être l'humilité, parce que souvent les Américains ils arrivent ici en pensant que c'est une sous-ligue, fait qu'ils vont être capables de la dominer. Là. Fait que ça, on peut parler d'humilité, ou il a peut-être pris ça un petit peu plus à la légère que ce qu'il aurait dû. Dans le sens où, tu sais, les Alouettes aussi ont accepté ça, mais il s'était quand même engagé pendant le camp en Floride, là, le camp de printemps, qu'on peut appeler là, des Alouettes, il s'était engagé dans une autre ligue.
Ben oui.
Ah oui, mais tu sais, ça, c'est prendre la Ligue canadienne à la légère, là, de penser que tu vas être capable de faire ça de la main gauche pendant que tu coaches une autre équipe, puis que tous les autres entraîneurs de la Ligue canadienne à travers la Ligue, eux autres sont tous en train de focusser à 100% sur leur équipe de la Ligue canadienne, puis de penser que tu vas être capable de faire le même, d'arriver au même résultat. Je pense que ça, c'est une erreur en soi, là. Fait que s'il faut humilité ou ne plus prendre ça à la légère et prendre le taureau par les cornes puis mettre les efforts qu'il faut et le temps qu'il faut puis le focus qu'il faut et surtout respecter la Ligue canadienne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une ligue différente de la NFL. Ça fonctionne pas pareil. Les temps de repos sont pas pareils. Les temps de pratique sont pas pareils. Et tout ça vient un petit peu... Le nombre de joueurs dans ton équipe n'est pas pareil. Donc, le fardeau que t'imposes à tes joueurs, si tu fais la même chose que dans la NFL, ça va finir par te rattraper. C'est toutes des choses qu'il faut qu'ils apprennent. Je pense qu'il les a appris cette année. En tout cas, on va le savoir rapidement, parce que si le camp d'entraînement est encore aussi ardu que l'an passé, ça se peut qu'on arrive à la première semaine de la saison, puis qu'on soit déjà en arrière des autres au niveau du repos.
Oui, fatigué pas.
Et ça, c'est important de le comprendre. Et ça a été un des problèmes de Coach Sherman, selon les dires de plusieurs. T'sais, il n'a pas ménagé ses joueurs, il n'a pas été assez à l'écoute de ses joueurs, et là, il faut qu'il le soit là, l'an prochain, parce que la plupart des joueurs, des coachs qui ont du succès dans cette ligue-là, c'est des coachs qui sont à l'écoute de leurs joueurs.
OK. Encore, il y aura quelques mouvements du point de vue des coordonnateurs. Rich Tubler qui s'en va avec les Lions de BC. Il faut encore une fois recommencer à zéro. T'sais, si on parle d'essayer d'avoir un club qui est compétitif, ça te prend un peu de constance, ça prend de la stabilité. On n'arrive pas à trouver ça chez les Alouettes.
Oui, bien là, avec l'attaque, il ne faut pas t'oublier en plus que là, on diminue les entraîneurs là, dans la Ligue canadienne. Le personnel d'entraîneurs est diminué au niveau des entraîneurs. C'est ça qu'on a vu des congédiements ou des contrats qui n'ont pas été renouvelés. Puis là, tu perds Rich Tubler. Fait que là, tu vas avoir en partant pour toutes les équipes le même genre, le même fardeau de travail avec moins de coachs pour le faire. Fait que faut que tu arrives et que tu sois prêt. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves ton coordinateur défensif rapidement pour qu'il prépare son plan de match, qu'il prépare son cahier de jeu, qu'il l'envoie aux joueurs défensifs que tu qualifies d'avoir pour qu'on arrive au camp d'entraînement et qu'on ne perde pas de temps. Là. Parce qu'on va tomber encore une fois en arrière là, au niveau de la préparation si on fait ça. Et ça, c'est très important. Il faut le dire, par contre, Rich Tubler, c'était pas le plus jeune. Là. Moi, je pensais pas qu'il était pour être là longtemps. Là. Soyons très honnêtes, tout le monde. Là. Rich Tubler qui s'en va, c'est plate. J'aurais aimé ça qu'il reste. Mais moi, j'aurais peut-être même pensé qu'il était même pas supposé être là, en fait. C'était comme un cadeau là, qu'on hérite de ce bonhomme-là. Il était juste là comme consultant au départ. Et c'est la suite d'un entraîneur qui est parti, qu'on a mis Rich Tubler ou qui a accepté de prendre le poste. Là, si on trouve quelqu'un, moi, j'aurais tendance à essayer de trouver un jeune. Là. Un jeune qui va être là pour le long terme. Comme tout, encore une fois, au risque de me répéter, les équipes gagnantes le font. Tu sais, les équipes gagnantes, ils construisent leurs joueurs ou leur banque de joueurs pour les années à venir, 2-3 ans d'avance. Puis surtout les entraîneurs des équipes qui gagnent dernièrement dans les Canadiennes, c'est des groupes d'entraîneurs qui, année après année, travaillent ensemble.
Ben oui, stabilité, Bruno, c'est
pas
ça que ça
tout
prend.
Le temps en train de changer.
Ben
voilà,
oui.
C'est ça.
Stabilité, là, c'est ça le mot. Stabilité, c'est pas dur.
Exact. Mais si dans ce cas-là, là, on va parler de positif pour les Alouettes.
Ah ben oui.
Il y avait l'option, là. Il aurait pu mettre tout le monde dehors puis recommencer. Ils ont décidé d'y aller pour la stabilité.
Bon.
Est-ce que ça va avoir été la bonne chose à faire? L'avenir va nous le dire. Mais au moins, il y a la stabilité d'avoir gardé le même groupe d'entraîneurs. Là.
Ah, non, ça, c'est clair.
Tout le monde voulait qu'on les mette tous dehors encore. Là.
Exact.
Là, on ne peut pas dire stabilité au mois de décembre, alors qu'au mois de puis au mois de novembre, juste avant ça, tu sais, je veux mettre tout le monde dehors.
Non, clairement, t'as raison. Mais Bruno, tu vois, gars, il y a plein de choses positives. Ça a tellement été difficile qu'il y a beaucoup de place à amélioration. Et l'autre point, c'est que c'est très stable. On a gardé Kavis Reed et on garde le groupe d'entraîneurs. Voilà comment on peut être positif en cette veille de Noël. Bruno, on va s'arrêter quelques instants au retour. On va aller faire un tour de l'autre côté de la frontière. Il y a eu des matchs incroyables. Il y en a qui ont assuré leur place pour les matchs éliminatoires. Et je veux qu'on se parle de Patrick Mahomes. Malgré la défaite des Chiefs face aux Seahawks de Seattle, encore une fois, il est tout simplement spectaculaire. En fin de courte pause, vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. On est de retour aux amateurs de sport. Bruno Eppel est avec nous. C'est le temps de jaser de la NFL. Bruno, hier, écoute, je veux qu'on parle du duel entre les Chiefs et les Seahawks. Les Seahawks ont gagné 38-31 face aux Chiefs. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette bibitte-là, Patrick Mahomes? Quel talent il a comme corps arrière des Chiefs?
Ben, si lui n'est pas voté joueur par excellence cette année, moi, je comprends plus rien. Là. Puis je comprends que Drew Brees a eu une saison où il a battu un paquet de records de longévité. Je comprends qu'il n'a jamais été élu joueur par excellence de la NFL, puis ça n'a pas de sens. Mais la réalité, c'est que le joueur par excellence cette année dans la Ligue, ça a été Patrick Mahomes. On est forcé de l'admettre, parce que même hier, dans la défaite, première des choses, il n'arrêtait pas de ramener son équipe dans le match. Il ne faut pas que tu oublies où ce qu'il était, là. Il était à Seattle, l'endroit où il est connu pour avoir le 12e homme, l'endroit où c'est connu où les carrières, les jeunes carrières ont énormément de difficultés à performer, à être bons. Mais hier, c'est 3 passes de toucher, aucune interception pour Patrick Mahomes, et il est allé coup pour coup avec Russell Wilson, un gars auquel tout le monde compare Patrick Mahomes depuis son arrivée. C'est le même genre de vite, là, un gars mobile, un gars qui fait un petit peu des tours de magie, mais qui en même temps est capable d'exécuter un plan de match et de rester dans la pochette. Là. Il est allé coup pour coup avec Russell Wilson. Chez eux, dans le domicile de Russell Wilson, pour moi, il n'y a aucun doute que Patrick Mahomes doit être le joueur par excellence cette année dans la Ligue. C'est incroyable. Il va être bon longtemps en plus parce que c'est un gars qui se protège bien. Même s'il court avec le ballon, c'est rare que Patrick Mahomes se fasse frapper. Tu le remarqueras, là. Mm-hmm. Il y a cette qualité-là de sortir hors ligne, de se débarrasser du ballon, pas à la dernière seconde, mais plutôt juste avant pour que le joueur défensif soit pas capable de le frapper. C'est rare qu'il se ramasse sur le derrière avec la casse par-dessus le menton, là. Ça arrive pas vraiment que Patrick Mahomes se fait frapper solidement. Et ça fait qui va être là longtemps et en santé longtemps, selon moi.
Dis-moi, du côté des Chiefs, on disait tout récemment, Andy Reid a dit, Laurent Duvernay tardif, possibilité qu'il revienne. Là, il reste une semaine d'activité avant qu'on débute tout ça. Semaine d'activité dans la NFL, ça sera la semaine prochaine. Penses-tu qu'il sera là pour cette dernière semaine?
Je ne suis pas le docteur de l'équipe. Mais, de Laurent Duvernay tardif pourrait l'être, lui, le docteur de l'équipe. C'est peut-être à lui qu'il devrait parler. Ça serait une autre bonne nouvelle pour les... Pour les Chiefs, en tout cas, parce que s'il est en forme, là, il est un des meilleurs gardes de la Ligue. Et la ligne à l'attaque des Chiefs n'a pas été la même depuis la blessure de Laurent. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres gars qui sont blessés dans les semaines qui ont suivi la blessure à Laurent. Et ça a nuit un petit peu à la ligne à l'attaque puis à la cohésion qu'on avait. Puis Laurent, disons l'interdit, simple joueur de centre, moi, quand je le regardais aller, semblait être pas mal le leader de cette équipe-là, de cette ligne à l'attaque-là. Fait que de le revoir pour les Chiefs à l'arrivée des éliminatoires, ou même pendant les éliminatoires, si on est capable de prolonger notre séjour dans l'éliminatoire du côté des Chiefs, ça serait une maudite bonne nouvelle. Fait qu'on va le souhaiter, non seulement pour Laurent, parce qu'on l'aime bien, mais pour les chances des Chiefs de gagner le Super Bowl, je pense qu'ils augmentent grandement si Laurent Duvernay-Tardif est leur garde à gauche.
Un autre qui est extrêmement
important. La garde à droite, excuse-moi. La garde à droite.
Faut mettre les choses au clair, c'est ce que tu fais, Bruno Eppel. Écoute, un autre qui a connu un match incroyable, mais surtout l'homme des grands moments, joueur par excellence lors du dernier Super Bowl, arrive encore une fois en remplacement avec les Eagles de Philadelphie, Nick Foles, les Eagles qui l'emportent 32-30 face aux Texans de Houston. Qu'est-ce que c'est ça, Nick Foles? Trouve le moyen de lancer des bombes au bon moment. Il a été vraiment tout feu tout flamme dans cette victoire.
Ouais, il était 471 verges et 4 passes de toucher pour un gars, qu'il faut le dire, là, il n'a pas joué de l'année. La semaine passée, moi, face aux Rams, là, il arrivait face à une bonne défense. Je faisais mes prédictions, j'ai dit, regarde, Nick Foles, oubliez ça, là, il n'y a pas l'attaque au sol de l'an passé. Donc, il ne sera pas capable de se mettre derrière cette ligne à l'attaque, de cette attaque au sol-là. Il ne sera pas capable aussi de, d'avoir la chance d'avoir une défense aussi dominante que l'an passé. Fait qu'il, avec tout sur les épaules, ça va être difficile. Contre les Rams, il a été vraiment bon. Hier, contre les Texans d'Houston, une autre bonne défense, il a été extraordinaire. Il a le don, on dirait, de rassembler les Eagles en fin de saison, lorsqu'il arrive, parce que quand il se blesse à chaque fois, et de pas seulement s'assurer qu'on continue à être confiant, on dirait qu'il augmente la confiance de son équipe lorsqu'il arrive dans le moment de jouer et d'arriver dans le caucus. C'est de toute beauté de le voir aller. C'est un gars qui a de la glace dans les veines. Il n'a pas l'air nerveux du tout. Il a l'air en pleine possession de ses moyens. Et ça déteint beaucoup sur les joueurs de cette équipe-là qui commencent à y croire à un moment vraiment important de la saison, c'est-à-dire la fin de la saison. S'ils rentrent dans les éliminatoires la semaine prochaine, et pour ça, il va falloir que Minnesota perde et que les Eagles gagnent. S'ils rentrent dans les éliminatoires à la sixième et dernière place, je vais te dire une chose, ça se peut qu'ils soient dangereux. Parce qu'ils ont une équipe qui est bourrée de talent, ils ont des joueurs qui commencent à revenir, puis ils croient dans leur corps arrière, qui s'appelle Nick Foles et non Carson Wentz.
Certains clubs se sont assurés de leur place en éliminatoire, il y en a d'autres qui s'étaient éliminés. Écoute, je veux juste prendre une couple de minutes là, pour qu'on parle des Browns de Cleveland. Baker Mayfield, écoute, j'ai un sentiment d'amour envers ce gars-là. Il m'a fait halluciner depuis le début de la saison. Et là, malheureusement, les Browns ne seront pas des matchs éliminatoires. Mais avoue, là, ce gars-là, il a du talent, là, Baker Mayfield.
Ouais, puis il joue contre les Ravens la semaine prochaine. Baker Mayfield, ben, pour moi, c'est la recrue par excellence dans l'américaine. Je pense que Saquon Barkley va être la recrue par excellence cette année, mais il est dans la nationale. Si tu regardes dans l'américaine, la conférence américaine, Baker Mayfield, pour moi, sans aucun doute, là, c'est lui la recrue par excellence, en attaque en tout cas. Il a été sensationnel. Il a montré à tout le monde pourquoi les Browns avaient eu raison de le prendre au tout premier rang. Alors que, rappelle-toi, quand c'est arrivé, on s'est dit, voyons, on s'est dit qu'ils ont pensé là. Ils ont, encore une fois, moffé leur repêchage. Mais non, pas du tout. Baker Mayfield est exceptionnel. C'est un leader. C'est un gars extrêmement talentueux. Et c'est drôle, c'est la première saison qu'on avait le goût de voir les Browns. Tu sais, puis même nous, à RDS, là, quand est arrivé le temps de choisir le match qu'on va faire en fin de semaine, ben, on hésitait parce qu'on voulait voir les Browns avoir la chance d'avoir une saison gagnante. S'ils gagnent contre les Ravens, ils finissent avec une fiche gagnante. Puis ça va être beaucoup à cause de Baker Mayfield. C'est pas juste à cause de lui, là. Donc, les jours sont bons pour les Browns, finalement. Parce qu'on a Baker Mayfield, parce qu'on a un gars dans le champ arrière du nom de Chubb qui est vraiment exceptionnel aussi. On a deux bons gars en attaque pour bâtir pour le futur. On a finalement des beaux jours qui s'en viennent. Puis c'est rassurant de voir ça pour les Browns et surtout les partisans de Cleveland parce qu'ils n'ont pas été gâtés ben. Baker Mayfield va leur donner vraiment la chance de compétitionner toutes les années futures.
En terminant, Bruno, ce soir, il y a un match. La NFL fait bien les choses. Un petit match le 24 décembre. Les Broncos qui affrontent les Raiders. Mais tu sais, deux clubs qui sont éliminés. Y a-tu quelque chose à regarder là?
Ben non. Ben, moi, personnellement, je peux te dire une chose. Après les cinq matchs qu'on a eu en fin de semaine, nous, à RDS, le match de lundi soir, on s'est trompé du côté de la NFL. Là, lorsqu'on... Et tu sais, je comprends qu'on peut pas le changer. Là. C'est un horaire qui est fait et qu'on avait sûrement assumé que ce serait un meilleur affrontement que ça, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur ces deux équipes-là. Il n'y a rien à voir là. C'est plate à dire, là, mais s'il y a du monde qui ont des cadeaux de Noël à ouvrir, là, c'est une bonne nouvelle de ouvrir entre 8h30 et minuit.
C'est ça, la NFL a passé aux partisans. Allez, prenez le temps de donner vos cadeaux durant que ça joue. Laissez ça en arrière. Ça va vous faire une petite ambiance de Noël. Hey Bruno, c'est
ça tout... Ça ne pas des records de code d'écoute, ça c'est garanti.
Donc clairement. Bruno, c'est tout le temps qu'on a. Je veux te souhaiter joyeuses fêtes, toi, toute ta famille. Et je te dis un gros merci d'avoir été avec nous.
Hey, toi aussi, Jérémy. Bye-bye tout le monde. Joyeux Noël. Ciao.